Vous partager ce matin, j'ai donné un titre, c'est jusqu'au bout. Et alors peut-être que vous discernez déjà un petit peu où là où je veux en venir, mais enfin, et je vais quand même, alors c'est ce jusqu'au bout, j'étais percuté cette semaine par un texte que j'ai lu, que je vais vous lire, hein. Mais je ne commenterai pas trop ce dimanche, ce texte-là, parce que je pense que ce sera plutôt la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est aussi quand même dans la continuité de un peu de ce que Denis nous a partagé dimanche dernier et qui est quand même assez essentiel dans notre vie d'enfant de Dieu. Et donc ce texte qui m'a percuté, voilà, parce que moi, la Bible me percute tout le temps, en fait. Donc, alors, il faut juste que je vous donne le bon texte, quand même. Et puis, ce matin, en fait, on fera un peu d'histoire, finalement. Mais voilà, je vais vous lire ce texte qu'on va trouver dans 2 Chroniques 35, à partir du verset 21, on va dire. C'est le roi Josias. Et j'y reviendrai. Mais juste, je vais vous lire ce texte parce que c'est une des raisons qui a fait que ce matin, ben, je vous partage ce jusqu'au bout. Et peut-être qu'en lisant ce texte, vous verrez peut-être pas trop ce qui va en découler, mais c'est pas grave, hein, on va le voir ensemble de toute façon. Donc je lis 2 Chroniques, chapitre 35, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Il nous disait dit ceci. Néco, entre parenthèses, Néco, c'est le pharaon Néco, lui envoie des hommes avec ce message. Donc, il envoie des hommes à Josias. Roi de Juda, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas toi que je viens combattre, c'est un autre ennemi. Et Dieu m'a dit d'aller vite. Dieu est avec moi. Cesse de t'opposer à lui, sinon il te fera mourir. Pourtant, Josias ne change pas d'avis. En effet, il n'écoute pas les paroles de Néco, qui pourtant viennent de Dieu lui-même. Il enlève ses vêtements de roi pour qu'on ne le reconnaisse pas et il part dans la plaine de Médigo pour combattre. Et pendant le combat, les soldats lancent des flèches sur le roi Josias et celui-ci dit à ses serviteurs « Emmenez-moi, je suis gravement blessé !» Ses serviteurs le descendent de son char de guerre, ils le mettent dans son deuxième char et le ramènent à Jérusalem et là, il meurt dans cette ville, on l'enterre dans la tombe de ses ancêtres et tous les habitants de Jérusalem et les autres judéens font des cérémonies de deuil pour Josias. Amen. Alors, peut-être qu'à première vue, ça paraît pas très réjouissant, hein, cette histoire. Mais vous verrez que, en tout cas, comme je vous dis, moi, ça m'a touché et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais c'était bon pour l'introduction quand même, pour comprendre dans l'ensemble de ce qu'on va partager, pourquoi je vous partage ceci. En introduction, donc, ce matin, je vais vous lire un autre texte, un texte de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous aimez l'Apocalypse. Il y a des choses qui sont ardues, hein, dans ce livre, mais voilà, il y a des choses qui sont tellement merveilleuses aussi. Et dans ce livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, donc c'est tout à la fin. Je dirais presque que c'est la conclusion de la Bible, on peut le dire un peu comme ça. Et j'aime le dire aussi d'ailleurs comme ça. Et puis, au verset 10 du chapitre 22, il est écrit ceci. « Puis il me dit encore, ne garde pas secrètes les paroles de Dieu qui sont dans ce livre. En effet, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. » Écoutez bien, ici, le verset 11. « Celui qui est mauvais, eh bien qu'il continue à faire le mal. Celui qui aime ce qui est impur, eh bien qu'il continue à aimer ce qui est impur. » Je m'arrête là quand même un petit instant, juste pour qu'on comprenne bien ce qui est écrit ici, quand même. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire quand il dit que celui qui est mauvais, qu'il continue à faire le mal, et que celui qui est impur, qu'il continue à aimer ce qui est impur. Je ne sais pas, à votre avis, ce que ça veut dire, mais juste pour vous donner une piste, en tout cas, c'est Dieu qui parle. Donc, ce qui est impur, c'est ce que Dieu considère impur. C'est parce que toi, tu considères impur dans ta nature humaine ou pur dans ta nature humaine. Parce que, pourquoi je dis ça? Peut-être que ce que toi, tu considères pur, eh bien, aux yeux de Dieu, c'est impur. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand même intéressant de s'y pencher un petit peu et puis d'y regarder. Bon, on y reviendra. En tout cas, ce qui est dit ici, c'est que quelque part, Dieu nous met face à notre responsabilité. Il me met face à moi, mes responsabilités aussi d'enfant de Dieu. D'ailleurs, si on prend la suite de ce verset, il est dit, mais celui qui est bon, eh bien, qu'il continue à faire le bien. Il ne faut pas qu'il s'arrête en route. Alors, encore une fois, celui qui est bon, selon les critères de Dieu, c'est Dieu qui parle. Donc, Dieu me dit que si je suis quelqu'un qui est bon à ses yeux, je ne dois pas m'arrêter, mais je dois continuer. C'est-à-dire que je ne suis pas bon une fois comme ça, mais je suis bon, puis je dois continuer à être bon. Il faut que dans ma vie de tous les jours, eh bien, je sois celui qui est bon aux yeux de Dieu. Et puis, alors là, la fin de ce verset, quoi quand même, il dit, et celui qui vit pour Dieu, moi, ça me parle. Celui qui vit pour Dieu, alors qu'il continue à vivre pour Dieu. Pourquoi je vous dis que ça me parle? Parce que je m'interroge, Jean-Bernard, dans ta vie de tous les jours, parce que ce texte de l'Apocalypse, ce n'est pas seulement pour le dimanche matin, alors qu'on est à l'église. C'est dans notre vie de tous les jours. Jean-Bernard, est-ce que tu vis pour Dieu? Et puis peut-être que ce matin, chacun d'entre nous, on peut peut-être se poser la question, je pense que ce serait peut-être intéressant, est-ce que la priorité de ma vie, ce qui fait le socle de ma vie, eh bien, est-ce que celui qui est le premier dans ma vie, eh bien, c'est Dieu? En tout cas, ce texte me dit, et celui qui vit pour Dieu, alors qu'il continue à vivre pour Dieu. Encore une fois, il ne faut pas qu'il s'arrête en route. Jean-Bernard, il ne faut pas que tu t'arrêtes en route. Alors, je continue. Jésus dit, écoute, je viens bientôt, j'apporte avec moi ma récompense, et je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. On n'est pas en train de parler du salut ici, mais Dieu est en train de dire que chacun d'entre nous, les enfants de Dieu, ils auront une récompense, mais que notre récompense dépend de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, de ce que nous allons aussi, d'ailleurs, jusqu'au bout. D'où le titre un peu, mais on s'englobe quand même beaucoup d'autres choses. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Ils sont heureux, ceux qui lavent leurs vêtements. Ainsi, écoutez bien quand même, est-ce que je suis celui qui lave mes vêtements? Ça veut dire quoi pour moi? Je pense que c'est... Il faut qu'on s'interroge, quoi. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, je prends en considération, ce qui était un peu plus haut, là, cette notion de pureté, d'être celui qui vit pour Dieu et qui continue à vivre pour Dieu, celui qui est attaché à grandir dans la sanctification. Ils sont heureux, ceux qui lavent leurs vêtements. Ce n'est pas moi qui déclare ça, Je suis d'accord avec ce texte, j'aime ce texte, mais c'est Dieu qui nous dit ça. Dieu te dit, Dieu me dit ce matin, il me dit à moi comme il le dit à toi, eh bien tu seras heureux si tu laves ton vêtement. C'est-à-dire si jour après jour, eh bien, tu prends en considération que Dieu est un Dieu saint et qu'il veut que toi tu sois saint. La Bible nous dit ailleurs, je n'ai pas la référence en tête, mais soyez saints comme moi je suis saint. Et puis écoutez, ce n'est pas fini. Hein. Ils sont heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ainsi ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par ses portes. Ça sous-entend que certains n'entreront pas dans la ville. Ça sous-entend que certains n'auront pas le droit de manger du fruit de l'arbre qui donne la vie. Et au verset 15, d'ailleurs, Dieu va dire, mais qu'ils restent dehors ceux qui vivent n'importe comment. Qu'ils restent dehors ceux qui vivent tous les jours sans se préoccuper de ce que Dieu est. Sans se préoccuper, enfin, ou leur préoccupation, enfin, je ne sais pas ce qu'elle est, en tout cas, c'est pas, ils n'ont pas en eux cette préoccupation d'être des enfants de Dieu qui vivons en fonction de ce que Dieu désire, qui sont attachés à vivre pour Dieu et qui sont attachés à continuer à vivre pour Dieu. Et puis, il donne un certain nombre d'exemples, mais il me semble que ce n'est pas limitatif, mais quand même. Il dit, ben voilà, qu'il reste dehors les sorciers, les gens immoraux, qui n'ont pas la moralité que Dieu nous demande d'avoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Qu'il reste dehors les assassins, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui aiment le mensonge et qui mentent, etc. etc. Et au verset 17, il est dit, l'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent, viens. Viens. Encore une fois, je m'arrête quand je lis ce texte. Est-ce que je suis celui qui est intéressé par le fait que Dieu me dise, viens vivre, viens dans ma présence, viens être modelé, viens. Ou est-ce que tu préfères vivre avec le monde, par exemple? Est-ce que tu préfères vivre avec les plaisirs du monde? Bon, ce n'est pas ce qui est écrit, mais c'est ce que moi, je comprends. L'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent « Viens ». Celui qui a soif doit venir. Et celui qui le veut, en tout cas, recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Ce texte me dit quand même quelque chose de particulier. Celui qui a soif doit venir. Il y a plusieurs choses. C'est que, il se peut que je n'ai finalement pas soif. Enfin, la soif, quelle soif? Je pense que quand on regarde ce qu'on vient de dire précédemment, eh bien quand même, ça nous indique un certain nombre de choses. Mais est-ce que vraiment j'ai soif d'être bon selon le cœur de Dieu? Est-ce que j'ai soif de vivre pour Dieu, par exemple? Est-ce que j'ai soif que ma vie soit modelée par ce que Dieu désire de moi? Mais, en tout cas, celui qui a soif, ce texte me dit quelque chose qui doit nous parler ce matin. Parce que celui qui a soif, il est dit ici, celui qui a soif, Dieu dit, celui qui a soif doit venir. C'est-à-dire, si tu as soif, tu dois faire quelque chose. Parce que tu pourrais rester avec ta soif, et ta soif va être improductive pour ta vie dans l'éternité. Celui qui a soif, il faut que tu aies soif de vivre quelque chose selon le regard de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et si tu as soif, alors tu dois venir. Et si tu le fais, si tu rentres dans cette réalité-là, eh bien, alors, tu recevras gratuitement l'eau qui donne la vie. Peut-être que... Moi, je m'interroge quand même. Hein. Je vous le dis, j'ai quelquefois le sentiment, alors je me trompe peut-être, mais que certains ne peuvent pas être intéressés finalement par leur vie éternelle dans la présence de Dieu. Alors moi, je veux dire, chacun d'entre nous, on est face à ce que Dieu est, face à ce que, enfin, à ce que Dieu nous dit, face à. Mais je peux pas dire ou penser que je suis ce véritable enfant de Dieu qui aujourd'hui est la fiancée, comme disait Denis la semaine dernière, et qui deviendra l'épouse. Je ne serai pas cette épouse si je n'ai pas la soif et que si je ne viens pas nourrir ma soif parce que l'Esprit de Dieu... Jésus a dit à la Samaritaine, celui qui boit de cette eau, donc l'eau que moi je lui donne, il n'aura plus jamais soif. Quoi. Et l'eau que Jésus donne, eh bien... c'est sa vie en chacun de nous, c'est son esprit en chacun de nous. Vous savez, c'est cet esprit qui vient écrire dans nos cœurs la loi de Dieu, la volonté de Dieu, le désir de Dieu. Qui d'entre nous est intéressé par le fait que Dieu vienne écrire dans notre cœur sa volonté? Parce que si Dieu vient écrire dans ton cœur sa volonté, eh bien ta vie, elle n'est pas comme la vie du monde. Ça, c'est certain. Si Dieu écrit dans ton cœur et que tu te laisses modeler par la volonté, par le désir du cœur de Dieu, parce qu'il est en train d'écrire en toi, parce que tu laisses écrire, eh bien, tu vas détonner dans le monde. Tu ne seras pas comme le monde, ça c'est certain. Mais en tout cas, la conclusion de ce livre, l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, et voilà, j'aime bien le voir comme cette conclusion, qui est extraordinaire, quoi, mais voilà. Frères et sœurs, c'est bon d'être la fiancée aujourd'hui. Mais, alors on le verra au travers des textes qu'on va lire et puis ce que Dieu a mis sur mon cœur quand il nous est parlé d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas le tout de démarrer, de devenir enfant de Dieu, mais c'est le tout d'être enfant de Dieu puis d'aller jusqu'au bout. Un autre texte, dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16, alors que je suis en train de me rendre compte quand je vois l'heure défiler que j'irai pas très loin ce matin. Mais c'est pas grave, il y a plusieurs dimanches devant nous. Alors, Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16, écoutez bien. C'est pourquoi, amis très chers, c'est Paul qui parle aux Philippiens, obéissez à Dieu comme vous l'avez toujours fait. Est-ce que notre volonté, c'est d'obéir à Dieu, frères et sœurs? Bon, là, Paul dit aux Philippiens, mais il nous le dit aussi à nous ce matin. Parce qu'on est en train de le lire, ce texte. Ce texte qui est tiré de la parole de Dieu. Dieu a voulu qu'on le reçoive, ce texte, aujourd'hui. Donc, on le reçoit parce qu'on est des enfants de Dieu. Alors, obéissez à Dieu comme vous l'avez toujours fait. Obéissez-lui non seulement quand je suis là, mais encore plus maintenant que je suis absent. Et... D'ailleurs, c'est un texte un peu qu'on a échangé avec André, pas très longtemps. Ayez avec un grand respect pour Dieu et en tremblant, travaillez pour être sauvés. Ça va ? Mais moi, je croyais que le salut, c'est gratuit, Travailler pour votre salut, ça veut dire quoi, ça? Et en plus, il dit, mais avec un grand respect. Avec un grand respect pour Dieu, en tremblant, travailler. Alors, c'est vrai, frères et sœurs, le salut, c'est gratuit. Jamais on pourra acheter notre salut. Par contre, si vraiment tu es sauvé, et je crois que c'est l'essence de ce texte. D'ailleurs, quand on regarde d'autres traductions, dans d'autres traductions, ce n'est pas marqué travailler pour être sauvé, mais le sens de ce verset-là, c'est dire quelque part, eh bien, travaille ou fais en sorte que ta vie montre que tu es sauvé. C'est-à-dire que si tu es sauvé vraiment, eh bien, ta vie va montrer que tu es sauvé. C'est un peu l'idée. Ça veut dire que, encore une fois, je répète, si je suis sauvé, ma vie ne ressemble pas, je veux dire, à ce que je vois dans ce monde. Mais ma vie, je dois, je ne sais pas comment dire, faire en sorte, travailler, comme il est dit dans ce texte, à ce que ma vie montre dans mes paroles, dans mes actions, dans mon comportement, eh bien que je suis quelqu'un qui est sauvé et qui reflète Jésus-Christ. Et donc, parce que ma vie, dans ma vie, eh bien, j'ai un grand respect pour le Dieu de gloire. Là où je suis, quand je suis au travail, quand je suis à l'école, quand je suis à la maison, quand je suis avec mes enfants, enfin bref, eh bien, voilà, mon comportement, mes paroles, mes actions, eh bien, elles sont impactées parce que Dieu change ma vie. Et parce que, enfin, le fait que je sois sauvé, eh bien, je prends en compte la sainteté de Dieu. Ce texte me dit encore une fois que, eh bien, j'ai cette crainte en tremblant, c'est-à-dire que je ne veux pas désobéir à Dieu, même si ça m'arrive malheureusement, mais en tout cas, ma volonté, mon désir, c'est d'honorer Dieu. Et j'ai une telle perception de la sainteté de Dieu que je ne veux surtout pas le décevoir. Encore une fois, ça ne veut pas dire que malheureusement, à cause de notre nature, on est tous des pécheurs, on peut, il nous arrive de tomber, de chuter. Mais quand je tombe et quand je chute, eh bien, je viens devant Dieu. Je lui demande pardon. Je vis cette phase de repentance. Parce que justement, je suis impacté par ce que Dieu est. Et puis, écoutez bien ici, parce que le verset 13 est aussi assez extraordinaire quand même. Donc, je vais relire cette partie du verset 12 et puis enchaîner sur le verset 13. Donc, avec un respect pour Dieu, un grand respect pour Dieu, et en tremblant, travailler pour être sauvé. Et le verset 13 dit ceci, « Dieu travaille en vous, et il vous rend capable de vouloir et de faire des actions qui lui plaisent. » Waouh, mais alors là, vous ne trouvez pas ça extraordinaire, vous? Parce que finalement, même si j'ai conscience de toutes mes limites, si j'ai conscience de ma misère, si j'ai conscience de mon péché, il vaut mieux que j'en ai conscience d'ailleurs, bien je sais quand même une chose, c'est que alors que j'ai ce désir, cette volonté, et que je mets en action ma volonté de vouloir montrer l'action de Dieu dans ma vie, donc le fait que je suis en train de changer, d'être transformé, modelé par la volonté de Dieu, eh bien, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul face à ma misère, face à mes limites, mais j'ai là un Dieu qui est en train de travailler en moi et qui me rend capable. Je ne suis pas tout seul avec mon incapacité, mais Dieu, dans mon incapacité, eh bien, il vient et il me rend capable. À une condition, frères et sœurs, c'est que j'entre volontairement, que je prends en compte volontairement dans ma vie, justement, ce que Dieu est, la sainteté de Dieu, et que j'ai vraiment en moi ce désir. Vous savez, Dieu ne fera rien en vous si vous n'avez pas ce désir-là. Dieu ne fera rien en vous, il ne travaillera pas à vous rendre capable si vous n'avez pas envie de travailler à votre salut avec crainte et tremblement, si on prend la version de Louis II. Et puis, alors je reprends le verset 13, « Dieu travaille en vous, il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. » Pour la gloire de Dieu. Ainsi, vous serez innocents. On n'aura rien à vous reprocher. Vous serez des enfants de Dieu sans défaut au milieu des gens malhonnêtes et mauvais. Oui, on va être forcément différents. Parmi ces gens-là, vous brillez comme des lumières dans le monde. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je brille comme une lumière dans le monde? Eh bien, parce que vous apportez la parole de vie. Parce que en moi, je laisse vivre l'action, l'Esprit de Dieu, Je laisse Dieu écrire dans mon cœur, je laisse, parce que Dieu écrit dans nos cœurs sa parole, sa volonté. Moi, je ne sais pas, mais lui, il sait. Frères et sœurs, jusqu'au bout. Alors, je vois qu'il est déjà 11h. Je vais arrêter là, juste. Je vous ai pris tout à l'heure. Donc, ce texte qui est à l'origine de ce que je suis en train de vous partager, peut-être que vous dites, bah, encore une fois, mais on a l'impression que ça n'a rien à voir. Hein. Alors, je vais quand même, avant d'arrêter ce matin, puis je continuerai dimanche prochain, mais juste, je ne sais pas si vous aimez l'Ancien Testament. Jean-Bernard, quelle question ? Quelquefois, on peut se poser des questions, mais moi, je préfère lire le Nouveau Testament que l'Ancien Testament, personnellement. Mais malgré tout, j'aime quand même l'Ancien Testament. Et plus je grandis dans ma foi, plus je comprends ce que Dieu, le pourquoi de l'Ancien Testament. Même si, d'ailleurs, je vais juste poser une question. Est-ce qu'il y a une différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une différence ? Bien sûr que non. Dieu ne change pas, il ne changera jamais. La Bible nous dit qu'il n'y a en lui aucune ombre de changement, rien. Donc le Dieu de l'Ancien Testament, c'est exactement le même que celui du Nouveau Testament. C'est exactement. La différence, c'est que l'Ancien Testament, c'était l'Ancienne Alliance, et nous, on est dans une nouvelle alliance. Mais, dans 1 Corinthiens chapitre 10, donc Paul va dire, ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. Frères et sœurs, il y a plein de choses qui sont intéressantes pour nous aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, en tout cas. Et il y a cette notion-là. Je pense que ce n'est pas la seule, hein, mais en tout cas, elle est là, présente et réelle. Ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. Écoutez bien la suite, d'ailleurs. On les a écrites pour nous avertir, nous, pour m'avertir, moi, Jean-Bernard, pour t'avertir, toi, nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on prenne en compte ce matin, et je continuerai dimanche prochain, parce que je vous avais dit que normalement je voulais vous parler d'histoire ce matin, mais bah, ce sera dimanche prochain, on fera un petit historique de certaines choses. Mais en tout cas, l'histoire qu'on va lire, qu'on continuera à lire, que j'ai commencé par ce texte en introduction, eh bien, sont des choses qui nous sont parvenues jusqu'à nous aujourd'hui. Pas pour qu'on les balaye, ce n'est pas pour juste entendre une histoire, mais elles sont là parce qu'elles sont là pour qu'on les prenne en compte comme un exemple. Et dans cet exemple, eh bien, il y a des leçons à prendre. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. En tout cas, si je continue ce texte d'1 Corinthiens 10 au verset 12, désolé, moi je coupe toujours tout. Alors, je vais relire pour que ce ne soit pas décousu. Hein. Ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. On les a écrites pour nous avertir, nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. C'est pourquoi, quand même, c'est intéressant ce qui va suivre, que celui qui se croit solide, moi je suis tellement fort, je suis tellement grand dans la foi, bien, si tu crois ça, alors fais attention de ne pas tomber. Sois pas orgueilleux. Crois pas que tu sais tout. Crois pas que tu es tellement fort. Parce que, et puis, toutes les tentations que vous avez rencontrées, eh bien, étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de la supporter et le moyen d'en sortir. Ça vaut le coup d'être un enfant de Dieu qui veut vivre la présence de Dieu, l'action de Dieu dans sa vie, qui veut se laisser changer, transformer, rendu capable celui qui travaille à son salut avec le respect profond de la sainteté de Dieu, de qui est Dieu, pour que sa vie reflète le Dieu saint. Ma vie n'est pas le reflet du monde, frères et sœurs. Ma vie est le reflet du Dieu des cieux. Et on continuera donc la semaine prochaine. Mais jusqu'au bout, frères et sœurs. On doit aller jusqu'au bout. On ne doit pas s'arrêter en route. On doit être des serviteurs et des servantes qui... Oui, c'est un coût. Quand je sers le Seigneur, je paye quelque chose. C'est un coût. Mais ça vaut le coup pour notre éternité, frères et sœurs. Et ça vaut le coup, même sans compter notre éternité, ça vaut le coup par amour pour le Seigneur. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon je repars et puis vous me connaissez. Alors j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, frères et sœurs. Seigneur Jésus, on est simplement devant toi ce matin. Seigneur, tu vois, j'ai exprimé un certain nombre de choses ce matin, mais j'ai peut-être exprimé maladroitement, je ne sais pas, Seigneur, mais en tout cas, je te fais cette prière, Père, c'est que tu puisses, toi, graver dans nos cœurs cette importance considérable. Seigneur, des sujets qu'on a évoqués ce matin, écris-les toi-même dans nos cœurs, Seigneur, afin que notre vie, ma vie, Seigneur, puisse montrer que je progresse en toi, selon ton cœur et selon ta volonté. Seigneur, je te prie, Père, que, Seigneur, ce matin, on ne soit pas, comme Jacques disait, des auditeurs oublieux, qui voient comme dans un miroir, puis après, on oublie. Seigneur, permets qu'on n'oublie pas. Seigneur, viens encore une fois graver en nous, Seigneur, les implications de notre vie réelle, d'enfants de Dieu, de serviteurs et de servantes du Seigneur, de cette fiancée qui est en train de se préparer pour devenir cette épouse, Seigneur, qui te glorifie. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu puisses continuer ton œuvre en moi. Seigneur, tu as encore tellement à faire dans ma vie, que tu puisses aussi faire ton œuvre dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que notre communauté, Seigneur, sois encouragé, que tu viennes nous encourager. Seigneur, même si vivre pour te glorifier, eh bien, on est à contre-courant de notre société, de notre monde, mais Seigneur, que tu puisses nous encourager ce matin à avancer, à ne pas s'arrêter, Seigneur, et aller jusqu'au bout. Viens, Seigneur, et fais ton œuvre en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.